3 février 2008. Prédication apportée par le pasteur Alain Ouvrard. Thème : les silences de Dieu.
Un texte dans un tout petit livre de la Bible, Sophonie. Ah oui, j'entends. Alors, Sophonie. Prophète des temps anciens. Alors, Sophonie. Chapitre 3. Verset 17. Écoutez bien. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Et c'est une petite expression que j'aimerais souligner ce matin, que je relis. Il gardera le silence dans son amour. On va parler des silences de Dieu. C'est tout un programme. C'est un sujet qui ne laisse ou qui ne cesse d'embarrasser les hommes, les croyants s'entendent, parce que les croyants prient. Quand on ne prie pas ou quand on ne demande rien, c'est normal qu'il y ait le silence. Mais les croyants, les chrétiens que nous sommes, eh bien c'est vrai que quand nous abordons la question, cela, eh bien quelquefois crée de l'embarras sur la manière d'interpréter quand Dieu se tait et qu'il ne répond pas. On entend assez souvent, moi je l'entends, parfois vous me téléphonez et vous me dites « j'ai prié et Dieu ne répond pas ». Je ne peux pas dire à la place du Seigneur s'il n'a rien dit. Comprenez ? Ça arrive assez souvent, hein, ça. Il y a un proverbe qui dit ceci, c'est que la parole est d'argent, mais le silence est d'or, n'est-ce pas ? D'accord. Alors, qu'est-ce que le silence ? On est dans un monde de bruit. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'entend pas. Parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et il y a de plus en plus de bruit. Est-ce que le silence a un sens ? Voilà une autre interrogation. Est-ce que nous devons interpréter le silence de Dieu comme une réprobation ? Parfois, c'est ce que nous pensons. Est-ce que nous devons vivre le silence de Dieu comme une épreuve ? Ou comme une école. Est-ce que c'est un traitement de désintoxication quand Dieu ne répond pas ? Parce que ça nous renvoie à nous-mêmes. Est-ce que c'est parfois aussi une preuve de l'amour divin ? J'ai gardé le silence dans mon amour. Il a gardé le silence. Le texte, il gardera le silence dans son amour. Alors pourquoi Dieu se tait-il ? Pourquoi, lorsque nous le prions, il ne répond pas ? Il ne dit rien ? Est-ce un bien ou est-ce un mal ? Alors nous allons examiner la question aujourd'hui, si vous voulez. Commençons par ce qui nous apparaît négatif. Car souvent, Dieu parle et répond à notre grand étonnement par et dans le silence. Eh oui, Imaginez-vous que Dieu peut nous répondre quand il ne dit rien. Alors on va nourrir un petit peu ces idées, ces pensées, et on va les développer. La Bible nous parle du silence de la colère de Dieu. L'avez-vous déjà lu cela? Il y a plusieurs textes qui en font état. On sait pertinemment que la colère des hommes s'exprime par l'explosion, souvent, à travers une manifestation, un jaillissement de paroles, et qui ne sont pas forcément toujours très belles, ou dans son contraire, la colère des hommes se révèle par un silence glacé, quelque chose qui vous étreint, quelque chose d'inquiétant, pas de réponse. Et dans les deux cas, pour l'homme, ça peut être aussi la colère. Soit dans un déferlement de paroles qui vous viennent comme cela sur la tête et on en est complètement pétrifié, ou alors un silence complet, rien du tout. Le prophète Ésaïe l'écrit au chapitre 42, au verset 14, il dit « J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu. Alors je crierai, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. » Voilà comment quelquefois l'homme se comporte. Dans le psaume 50 et au verset 21, il est dit ceci, et je crois que c'est Dieu qui le dit là, cette fois-là. « Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, dit le Seigneur à l'homme, mais je vais te reprendre et mettre tout sous tes yeux. » Alors, à un moment donné, Dieu se tait, il peut se taire très longtemps et à un moment donné de dire maintenant les hommes, vous vous taisez, c'est moi qui parle. On peut appeler ça une sainte colère, une sainte indignation de Dieu qui garde le silence avec un semblant de laisser faire. Et on se dit, mais Seigneur, tu n'interviens pas dans une situation comme ça. Et pourtant, c'est d'une situation mais qui est scandaleuse. Mais ça ne dure qu'un temps. Et on se dit, mais Dieu laisse faire. Alors c'est que Dieu doit être d'accord. Parce qu'il a gardé le silence. Voilà, je me suis tu, dit Dieu. Et puis ensuite, Dieu intervient. Pour rétablir sa justice et rétablir sa sainteté bafouée. Ah, on n'est pas réglé sur la même horloge avec le Seigneur. C'est ça ce qui fait véritablement notre incompréhension. Eh oui, l'horloge de Dieu, elle n'est pas réglée comme la nôtre. Et dans l'histoire de l'humanité, il s'est passé quelquefois des siècles et des siècles après certains péchés abominables où Dieu s'est réveillé dans d'autres générations. Réveillé, façon de parler. Hein. Il ne sommeille ni ne dort. Mais les conséquences ont été quelquefois des décennies ou des siècles après. Alors c'est vrai que quand on regarde ça, on se dit, mais Seigneur, nous, on aurait fait quelque chose à ta place. Dieu dit, non, il ne dit rien. Vous avez vu mon geste. Le silence exprime la réaction émotionnelle forte. C'est vrai, et on a des mots pour ça, nous, dans notre langage d'homme. On dit interloqué. Oh. Je suis sidéré. Je trouve pas les mots. Je reste bouche bée. Alors on pourrait en multiplier hein, des expressions comme ça, parce que ça va avec les gestes. Hein. Vous avez remarqué? Il y a beaucoup de choses, quand on ne trouve pas les mots, qui ne sont pas dites avec le souffle, mais qui sont dites avec les gestes, avec un regard, avec une attitude. Et le visage est très expressif à ce moment-là. On peut dire des messages de cette manière. Ça, c'est le silence de la colère de Dieu. Il y a le silence devant le péché des hommes. Pourquoi en situation de faute, Dieu répondrait, ou Dieu répondrait-il, puisque nous les hommes, nous savons pertinemment ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il y a deux catégories. Mais ces deux catégories se rejoignent. Il y a ceux qui ignorent la parole de Dieu, qui ignorent la volonté de Dieu, qui ignorent la Bible, qui ignorent les plans de Dieu, les desseins de Dieu, qui ignorent finalement, eh bien, quelque part, tout ce que nous connaissons, nous. Et ces gens-là, ils ignorent tout ça, mais Dieu a mis dans leur cœur, comme à nous-mêmes, une conscience. Et ils savent très bien quand c'est bien et quand c'est mal, quand c'est juste et quand c'est injuste. Et puis il y a les chrétiens, avec une autre responsabilité, figurez-vous. Parce que non seulement nous avons, comme tout à chacun, une conscience, mais nous avons la connaissance. Alors, quand les hommes pêchent, quand les chrétiens pêchent, pourquoi dans cette situation répréhensible, Dieu répondrait-il? Puisque finalement ils se disent, mais dites donc, mais vous le savez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous voulez des prophéties? Vous voulez que je fasse descendre le feu du ciel? Vous voulez que je fasse venir ceci et cela à travers le tonnerre, les éclairs? Mais puisque vous le savez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on reprend un enfant qui a fait une bêtise, on lui dit, mais je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Il le sait, et il sait très bien qu'il le sait. Et qu'est-ce que vous voulez vous attendre que Dieu dise encore quelque chose? Puisqu'il l'a déjà dit, et que nous le savons. Je prends un exemple. Dans 1 Samuel, chapitre 28, verset 6, il est question du roi Saül, qui n'était certainement pas un des hommes les plus obéissants. Vous connaissez. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit à rien. Voilà un homme qui prie, et il s'attend à ce que Dieu lui réponde, et Dieu lui dit, rien du tout. Et il n'a pas répondu, Dieu n'a pas répondu à Saül, ni par des songes, ni par les moyens de l'époque que l'on appelait l'Urim, ou par les prophètes. Alors à ce moment-là, quand Saül a vu que Dieu ne répondait pas parce qu'il s'attendait à ce que Dieu lui réponde, alors il nous est dit dans le texte, et Saül dit, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Vous avez vu la différence qu'il y a entre les deux? Dieu ne lui a pas répondu, il s'est dit, « Maintenant je me tourne vers la magie et l'occultisme, parce que j'ai besoin d'une réponse du ciel. » Mais il s'en était bien moqué, Saül, depuis des années du ciel et de celui qui l'habitait. Et de celui qui l'avait mis en place comme roi, ben, il s'était bien moqué de Dieu. Alors quand on se moque de Dieu, vous pensez que nous allons avoir des réponses? Quand on sait ce qu'il faut faire et qu'on le fait, enfin qu'on ne le fait pas. Alors à ce moment-là, il y a eu ce que l'on peut appeler en réaction dans le cœur et dans l'âme de Saül, il y a eu de la déception. Il y a eu de l'impatience, il y avait de la curiosité, que j'ajouterais une curiosité malsaine, parce que quand on n'a pas de réponse de Dieu et que l'on a un peu cette tendance à vouloir chercher dans le ciel, dans le monde invisible, et parfois on ne sait plus tellement de quel côté se trouvent la lumière et les ténèbres, alors ça devient une curiosité malsaine, et je dirais que ça devient même, et ça sera pour Saül, une curiosité mortelle. De vouloir savoir, de vouloir voir et de vouloir tout simplement avoir à tout prix. Faisons attention quand Dieu ne répond pas. Et ne nous mettons pas en colère contre lui quand il ne répond pas. Parce que si nous avons besoin de bonnes leçons, il va nous les donner. Alors le résultat, eh bien, en ce qui concerne Saül, il est tombé dans les liens de l'occultisme et des ténèbres. Et pour lui, ça a été le chemin de sa propre mort. Puisque deux jours après avoir consulté cette divineresse, eh bien, il s'est fait tuer sur le champ de bataille de Gabaon. Ou de Gilboa, plutôt. Alors ça, c'est encore le silence devant le péché des hommes. Il y a encore une autre forme de silence, le silence de Dieu face au péché d'incrédulité. Alors vous allez me dire, c'est un péché. C'est un péché particulier, c'est le péché des péchés. Parce qu'à partir du moment où l'incrédulité, il génère tous les autres. Quand Jésus dit, on va laisser la place à Jésus quelques instants, et après on reviendra à la fin parce que je conclurai par les silences de Jésus. Quand Jésus dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne croyez que quand vous avez des sensations, quand vous avez des frémissements, quand vos yeux sont « je vous ai dit que je suis qui je suis ?» Je vous ai dit que je suis le Messie, votre Messie, le Fils de Dieu. Mais vous, vous demandez à voir et à voir. Et vous dites, eh bien, parce que j'ai vu, je crois. Les Thomas, il y en a partout. Hein. Et ailleurs de répondre, et c'est le silence du ciel, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Vous voulez voir un miracle, dit Jésus à ses détracteurs. Eh bien, écoutez, allez fouiller un petit peu dans la Bible, et il y a un livre qui raconte l'histoire d'un homme où Dieu lui a parlé, et lui, il s'est mis les deux doigts dans les oreilles pour pas entendre. Et il s'appelle Jonas. Eh bien, vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. Dieu dit rien. Jésus n'a rien répondu. Incrédulité. Dieu se tait. Dieu ne dit rien. Et Dieu ne fait rien. Quand il y a de l'incrédulité, la première chose quand on s'approche du Seigneur, Seigneur, remets la foi, remets ma foi en action. Répare ma foi. Aide-moi à me guérir de mes doutes, de mon scepticisme. Aide-moi à me guérir de mes raisonnements qui finalement eh bien, sont des raisonnements qui neutralisent ma vie. Alors Dieu ne fait rien, il ne dit rien. Il y a un autre silence quand l'homme est fou. Ça peut arriver hein, que l'homme soit fou. Et nous trouvons cette parole dans Proverbes, chapitre 1er, verset 28. Je lis simplement, verset 28. Écoutez, voilà les hommes qui prient, mais qui prient pour de mauvaises raisons, qui prient pour de mauvaises causes. Alors Dieu dit, « Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne trouveront pas, parce qu'ils ont haï, la science, pas ma parole, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. » C'est terrible, ça. Terrible. Terrible. Parce que les gens de l'extérieur, ne savent pas ou ne veulent pas savoir, c'est une chose. Mais que les enfants de Dieu qui ont été enseignés, qui ont reçu la parole de Dieu, et qui là, quelque part, montrent une opposition à Dieu, hein, une rébellion à Dieu, eh bien, Dieu dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas aimé ce que je vous ai dit. Vous avez méprisé mes réprimandes. Alors à ce moment-là, vous dites que ça fait mal, vous dites que c'est brûlant, que c'est quelque chose de difficile à vivre. Mais puisque vous allez vous nourrir maintenant du fruit de vos propres pensées, de votre propre vanité, de vos ambitions, de votre orgueil démesuré, et de ceci et de cela, parce que vous n'avez pas écouté. Moi j'aurais voulu un autre dessein, j'aurais voulu un autre plan pour vous, mais vous avez choisi exactement le contraire. Alors vous m'appellerez. Et je ne répondrai pas. Et c'est terrible une chose pareille. Alors bien sûr, il y a une réponse à tout ça. C'est la repentance. Elle est toujours là, elle est toujours valable et elle est toujours validée en action. On est bien d'accord là-dessus. La repentance, une vraie repentance. Il y a les silences de Dieu face à la souffrance des hommes. Ah, ça, c'est beaucoup plus délicat. Quelquefois, ce que nous avons dit précédemment, là, depuis le petit quart d'heure que nous parlons, c'est le résultat, finalement, de tout ce qui a été dit. Donc, et ça entraîne la souffrance. Alors, silence de Dieu face à la souffrance des hommes. Il y a des souffrances qui sont liées au péché, à la désobéissance, à la rébellion, mais il y a des souffrances qui sont liées, tout simplement, eh bien, à notre petite constitution, à quelquefois la méchanceté des autres. Mais quelquefois, ce n'est pas du tout notre faute. Le mot qui revient le plus souvent dans la bouche de l'homme, devant les silences, c'est, dites-le-moi, pourquoi? Ah ça c'est un mot, s'il n'existait pas, faudrait l'inventer. Hein. Pourquoi Seigneur? pourquoi Ésaïe, chapitre 64, verset 11. « Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès ?» Voilà un homme qui prie, voilà un homme qui souffre, voilà un homme qui crie. Et il dit, « Mais Seigneur, jusqu'à quand te tairas-tu ?» Autre citation dans le psaume 83, verset 1er. Et là, c'est une prière de... Comment dire, c'est une prière où un homme n'est pas dans la colère, mais il est dans une profonde humiliation. Il dit, mais ô Dieu, ne reste pas dans le silence et ne te tais point, parce que j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin d'entendre un mot de ta part. J'ai besoin d'avoir une consolation. J'ai besoin d'être rassuré. Et qui ne le saurait pas? Quand il y a réponse de la part de Dieu, elle n'est peut-être pas celle que nous attendions. Parce que là, c'est encore un aspect des choses. Eh oui. Vous connaissez l'histoire de Paul, quand il a prié trois fois? Alors, on va voir ça. 2 Corinthiens. Ah, c'est intéressant, la Bible, quand même, non? C'est bien, hein? Il y a des choses formidables. Hein? La Bible, elle nous parle si bien de ce que nous sommes. Vraiment le miroir, hein, de ce que nous sommes. Alors, Ésaïe. 2 Corinthiens, je vois que vous êtes vigilants. 2 Corinthiens 12, 7 et 9. Voilà un homme qui souffre. Voilà un homme qui sert le Seigneur. Voilà un homme qui prie et qui voudrait bien servir sans souffrance. Qui voudrait bien être délivré de ses douleurs pour pouvoir mieux servir. Et alors, on demande des choses, mais quelquefois, la réponse n'est pas celle que nous attendons. Et pour que je ne sois pas, verset 7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors, trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul, qui a compris là, il dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ça vous est déjà arrivé de prier, et... Attendez la suite. Et que finalement, vous aviez demandé des choses précises, et ce n'est pas tout à fait ce que vous aviez demandé que vous avez reçu, ou je dirais même c'est le contraire que vous avez reçu. Alors là, on ne comprend plus. C'est dit, Seigneur, tu as bien compris ma demande? Silence. Silence n'est pas absence de réponse. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Je le rappelle, silence n'est pas absence de réponse. Le Seigneur a quelque chose à nous dire quand il garde le silence, quelque chose à nous dire de plus grand à ce que nous attendions. Il est des silences qui nous révèlent les secrets de notre propre cœur et les voies mystérieuses de Dieu. Paul avait certainement de bonnes intentions de demander la guérison et la délivrance pour lui-même. Et la réponse qu'il a eue était tout autre, et c'est pour cela qu'il dira à un moment donné, « Mais je me glorifierai davantage encore dans mon état actuel, parce que je sais qu'à travers ma faiblesse, c'est la puissance de Dieu qui se révèle et qui se manifeste. Parce que moi, quand je suis fort, Dieu est faible. Et quand je suis faible, Dieu est fort. » Dieu, c'est les choses, hein. Et quand on souffre, quand on est au sein de la souffrance, quand il ne semble rien faire, le Seigneur, alors on dit, Seigneur, moi je ne suis plus d'accord. Alors que vous soyez d'accord ou pas, en tous les cas, le Seigneur a un plan. Et vous savez, croyez bien que Dieu n'est pas contre nous, il est avec nous, et il veut notre plus grand bonheur. Et ça, nous ne le savons pas. où nous ne le comprenons pas. Parce qu'on est dans un temps où on veut du tout, tout de suite. On veut de la réponse automatique. On veut finalement, dans l'immédiat. Nous sommes des consommateurs dans l'immédiat. Et il ne faut pas prendre Dieu pour un distributeur où on appuie sur un bouton, on met une pièce, on appuie sur un bouton, et voilà, boum, 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 ça descend. Comprenez l'histoire, hein ? On vit dans cette société. Mais avec le Seigneur, c'est autre chose. C'est autrement. Et il sait très bien pourquoi il nous fait attendre. Il sait très bien pourquoi, quelquefois, lorsque nous posons une question, il ne répond pas. Ça, c'est l'école à laquelle nous sommes. C'est votre école. Et moi, c'est mon école vis-à-vis de Dieu. Et il y a bien des choses que je demande au Seigneur. Il me dit « Attends ». Ou il me dit « Un peu plus tard ». Parce qu'il sait très bien. Et vous savez, pour que les choses réussissent, il faut marcher au tempo de Dieu. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que si on a compris ça, on a tout compris. Il me semble qu'on a compris beaucoup de choses. Ceci dit, cela nous amène au silence de l'attente de la délivrance. On a parlé du péché, on a parlé de la colère, on a parlé de ceci, on a parlé de cela. Maintenant, de la souffrance, maintenant, après la souffrance, il y a les silences dans l'attente de la délivrance. Trois citations explicites. Il y a Exode, chapitre 14. Ah oui, c'est toute une histoire là, et une histoire que vous connaissez bien. Chapitre 14, versets 13 et 14, il est dit ceci. Quand le peuple sort d'Égypte et qu'il est vraiment, vraiment, vraiment mécontent, Moïse répond à Israël, « Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ah oui, gardez le silence. Dieu a besoin de silence pour pouvoir agir. Et s'il y a une leçon que nous avons à retenir de cela, cessons de gémir. On a peut-être de bonnes raisons de gémir, mais Dieu nous dit, mais est-ce que je ne suis pas avec toi? Est-ce que je ne suis pas ton sauveur? Est-ce que je ne suis pas ta délivrance? Je te demande une chose, mon enfant, arrête de gémir. Si tu n'avais rien, si tu étais tout seul, si tu étais désespéré dans un monde où qui ne serait que néant, mais non, moi je suis avec toi. Cessez de gémir. Et toutes ces autres lamentations qui ne fait que compliquer notre situation, notre épreuve. Quand vous avez un petit qui est en train, qui veut, qui trépigne, qui tape du pied, qui crie, qui pousse, qui fait des gestes, toutes sortes de choses, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit « Reste tranquille, tais-toi. » Parce que ce n'est pas la façon, finalement, qui va faire fléchir les parents quand ils commencent à bouger dans tous les sens et qui crient. C'est le contraire qui se produit. Et qu'est-ce que vous croyez que nous sommes des enfants de Dieu aussi, hein ? Et quelquefois, nous sommes très infantiles dans nos réactions, que nous croyons peut-être spirituelles, mais qui ne le sont pas. Parce que quand Dieu entend tout ce qu'il entend, il ne répond pas. Il attend qu'on se calme d'abord. Parce qu'il voudrait nous parler, parce qu'il voudrait nous consoler, et il voudrait nous délivrer. C'est bien pourquoi ce passage du psaume 137 et au verset 7 nous dit ceci. « Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui et ne t'irrite pas. » Parce que ça vient pas si vite. Notre cause est devant le Seigneur. Il sait comment la traiter, il sait quand la traiter, il sait où la traiter et comment la traiter. Seigneur, donne-moi de pouvoir rester tranquille. Le silence est souvent l'inspiration de notre foi et le moyen de tenir notre âme en patience. Ouais. Alors, je le répète, on est dans une société de consommation immédiate. Alors, c'est vrai que nous avons des réactions qui sont semblables, même dans notre vie spirituelle ou même en Église. Et pourtant, je crois que quelquefois de se tenir devant Dieu tranquille va inspirer notre foi, va faire en sorte que nous allons rentrer dans une autre dimension Précisément parce que, eh bien là, nous sommes dans le calme. Et de tenir notre âme en patience au lieu de trépigner. Et pourrait Dieu pourrait nous dire, et peut-être à certains ce matin qui écoutaient cette parole, espère en lui silencieusement. Espère en lui tranquillement. Et espère en lui calmement. Mon frère et ma sœur, n'y aurait-il pas un message ? Bon, il est pour tous. Mais peut-être pour quelqu'un qui est dans une situation difficile, parce que vous êtes dans la souffrance et vous attendez la délivrance. Alors, calmement, tranquillement, paisiblement. Et Dieu va répondre. Nous avons tous en mémoire cette citation de Jérémie dans les Lamentations. Il est bon. Alors, on va faire de l'interactif. Il est bon. Quoi ? D'attendre en criant, en priant, en gesticulant, en nous agitant. Non, vous n'avez pas l'air de suivre là. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et un peu plus loin, il est dit, il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Et il y a parfois des situations où Dieu nous impose le repos, le calme, la tranquillité. Et pendant que nous sommes dans le repos de Dieu, le repos de la foi dans le ciel, notre délivrance et notre secours est en train de se préparer. Il ne nous a pas oubliés, le Seigneur. Il est en train de faire le travail. Et la seule différence, c'est que nous ne voyons pas qu'il est en train de faire le travail. Et parce que nous ne le voyons pas, nous avons du mal à croire qu'il est en train de le faire. Dieu n'est pas un homme. Quelle leçon, hein ? Quelle leçon ! Les circonstances nous offrent, quand on souffre, nous offrent rarement le choix de décider. Mais si Dieu juge qu'il est bon pour nous d'attendre, c'est que dans sa sagesse parfaite, le meilleur est encore de nous taire, car souvenons-nous de ce que nous dit également la parole de Dieu. Nous avons démontré le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que nous ne nous relâchions pas et que nous imitions ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent les promesses. Eh oui, mes frères et sœurs, nous avons des exemples formidables dans la Bible. Des exemples d'hommes, de femmes qui ont gardé une pleine espérance et qui l'ont gardée dans un contexte qui était un contexte où ils se sont rendus silencieux devant Dieu. Et ils ne se sont pas relâchés avec le temps qui use, avec les circonstances qui bougent. Mais néanmoins, ils ne se sont pas relâchés et il nous est demandé de les imiter par la foi, par la constance, en nous disant « mais un jour ou l'autre, vous hériterez les promesses ». Parce qu'elles sont pour vous, ces promesses. Si vous savez attendre, en silence. Tenir votre âme en patience, tranquillement. Alors après, le pourquoi, c'est « jusque à quand, Seigneur ?» Jusque à quand ? Peut-être qu'on pourrait s'approprier ce petit raisonnement que j'ai formulé de cette manière. Seigneur, quand je ne sais plus ? Ça arrive souvent. Quand ? Je ne sais plus. Toi, tu sais. Et moi, de savoir que tu sais, eh bien, ça me suffit. Vous voulez qu'on redise ça ? Quand je ne vois plus, quand je ne sais plus, quand je suis perdu d'une manière ou d'une autre, alors je me dis à moi-même, mais toi, Seigneur, toi, tu sais ce que je ne sais pas. Et moi, de savoir que tu sais, ça me rassure. Et ça me suffit pour te faire confiance. Et le silence, c'est aussi faire confiance et attendre. Autrement, ça ne sert à rien de prier. Et puis, on arrive à ce texte que nous avons lu. C'est le silence de l'amour de Dieu. C'est un texte magnifique que je relis. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie et il gardera le silence en son amour, dans son amour. Il y a des silences de Dieu qui sont la preuve que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu a de la compassion pour nous. Parce qu'il y a un grand amour dans son cœur pour nous. Alors, il se tait. Alors, c'est peut-être un petit peu à l'inverse de notre façon de vivre et de penser. Parce que quand on aime quelqu'un et que on n'a pas de réponse. Eh oui. Si vous avez quelqu'un à qui vous dites « je t'aime, je t'aime, je t'aime » et puis et que vous n'avez jamais de réponse, c'est quelque chose. Hein. À moins que vous soyez marié avec un muet ou une muette. Mais là, ça s'explique médicalement. Mais le Seigneur nous dit aussi « il gardera le silence dans son amour ». La traduction hébraïque nous dit ceci. Moi, j'aime bien faire des comparaisons avec la Bible en hébreu. Il fera le silence, écoutez bien, il fera le silence sur tes fautes dans son amour. On nous a toujours appris que Dieu était en train de faire voler en éclats le péché des hommes, etc., etc. Ah oui, ça c'est sûr. Eh, sur tes fautes dans son amour. Parce que Dieu aime et que son amour prévaut sur sa justice, comme un père plein de compassion et de miséricorde, le Seigneur, vous allez vous en souvenir, use de patience sur nos manquements, nous faisant ou nous laissant le temps et la vie pour nous ressaisir et nous repentir. Vous savez de qui ça vient ça? De Pierre, l'apôtre Pierre, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et le but de Dieu quand il se tait, c'est de dire, eh bien voilà, il a fait ceci, il a fait cela. Mais moi, dans mon amour pour le sauver, pour l'instant, je ne dis rien. Mais je vais travailler par l'œuvre du Saint-Esprit, par la connaissance de la parole, par les circonstances parfois difficiles et malheureuses dans lesquelles nous nous plongeons, pour que justement, aucun périsse, mais que, voulant que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Oui, merci Seigneur. Ah, je comprends pas tout, hein, et je suis loin de te comprendre, Seigneur. Tu as des façons de faire qui sont pas les mêmes que les miennes. Mais néanmoins, je veux te faire confiance. Et quand tu me parles, je suis heureux, je suis content. Mais quand tu me parles pas, je suis heureux et je suis content quand même. Vous êtes capable de le dire, ça, mes frères, ça? Oui, oui, vous êtes capable de le dire. Cela s'appelle, chez Dieu, et c'est une qualité normalement qui devrait être aussi chez nous, la longaminité. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Vous l'avez déjà lu? La longaminité, c'est en quelque sorte décodé en français courant, c'est la patience aimante à endurer les offrandes dans l'espérance qu'il y ait une repentance. Dieu est long en amour. Il attend. Mais il sait pourquoi il attend. Et puis, je vais bientôt finir. C'est aussi les silences divins sur les choses que Dieu nous cachera toujours. Il y a des choses, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pourrez bien déployer tout ce que vous voudrez, mais Dieu gardera le silence sur des choses qu'il nous cachera toujours. Pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas à nous répondre ou à nous informer à l'avance, sauf cas rarissime. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est souverain. Alors on va expliquer cela. Il y a des questions peut-être que vous avez posées, vous n'aurez pas de réponse ici-bas. Ça je tiens à vous le dire, hein, ne faites pas comme Saül, si Dieu ne répond pas, allez pas le chercher ailleurs, hein, dans un autre au-delà. Parce que là c'est très grave. Dans le psaume 139, et vous allez comprendre pourquoi Dieu ne nous répond pas à certaines questions. Dans le psaume 139, dans les versets 3-5, il dit, enfin, c'est le psalmiste qui dit, « Je suis resté muet et dans le silence, je me suis tu quoique malheureux, et ma douleur n'en était pas moins vive. » Et la question est venue sur la bouche du poète. Et il a dit ceci, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie et quelle est la mesure de mes jours ?» Vous voulez que Dieu vous dise quand vous allez mourir? Vous voulez vivre heureux? Parce que là, je peux vous dire qu'à partir du moment où on sait certaines choses, imaginez-vous ce que ça peut être. Là, vous regardez le calendrier tous les jours. Ah oui, ça vous êtes sûr. Hein. Même si on le regarde tous les jours quand même. Mais on ne le regarde pas pour la même chose et la même perspective. Eh oui. Le poète dit ceci, « Mais Seigneur, j'aimerais savoir quand je vais partir. » Alors, il devait être peut-être en vrai, une véritable dépression en disant, « Seigneur, moi, je ne veux plus vivre sur la terre, je veux partir. » J'entends souvent hein, des gens qui me... Même quelques voix, certains d'entre vous, qui me disent, « Mais Alain, je voudrais mourir. » Je ne peux rien y faire. Eh oui, quelquefois, on a ce poids, mais on a tous voulu. Quelquefois, ça m'est arrivé aussi. De dire, « Seigneur, je ne veux plus vivre. » Ce n'est pas parce qu'on veut mourir qu'on meurt. Hein. Et il y a des gens qui ne veulent pas mourir et qui meurent. La vie est drôlement faite quand même. Si Dieu nous révélait tout sur notre devenir, mais qui résisterait à ça? C'est pour ça que le diable, lui, le fait. D'une manière tellement distillée, d'une manière tellement acide, tellement mortelle, meurtrière, quelquefois, il dit des choses à des gens. Et ça les tue, ces gens-là. Et encore que sachant tout, si nous savions tout à l'avance, on ne marcherait plus par la foi. Ben oui, on marcherait avec ce que nous savons. Ce que nous savons de l'avenir. Et là, ça détruirait notre foi, ça détruirait notre communion avec Dieu, ça détruirait notre paix. Nous serions soit dans la crainte, ou nous serions dans je ne sais pas dans quelles conditions, mais il n'y aurait plus de foi si nous savions tout à l'avance. C'est pour ça que la Bible lève le coin du voile dans certaines doctrines, par rapport au ciel, par rapport à ceci et cela, mais nous en savons si peu, parce qu'il faut continuer à vivre par la foi. N'est-il pas dit? Ça, c'est une parole que nous devons nous en souvenir, puisqu'elle est au cœur de l'Évangile. « Ne vous inquiétez donc de rien, ou du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour, suffit sa peine. » Merci Seigneur de ce que je ne sais pas ce qui va se passer demain. Enfin, j'ai quand même un petit programme. Hein. Oui, j'ai un agenda. Bon, maintenant, ça se fera ou ça ne se fera pas. À ta grâce, Seigneur. Mais toujours est-il que, pourquoi je m'inquiétais pour demain? Pourquoi je vais mettre en souci cela? Et je me suis souvent aperçu que quand je me mets en souci, quand je me mets mal avec moi-même, ça ne se passe jamais comme je l'avais pensé. C'est toujours mieux. Parce que le Seigneur, eh bien, quelquefois, devant mes appréhensions, devant ceci et cela, change la nature des choses. Et il me dit, mais pourquoi tu t'es inquiété? Vous ne l'avez pas souvent entendu, cette voix? Tu t'es inquiété pour rien. Tu t'es fait tellement de misère. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Et moi, je le dis à mon frère, à ma sœur, mais pourquoi tu t'inquiètes pour demain ou après-demain? C'est pas comment tu vas payer tes impôts? Il faut y penser, là. Ah. Vous avez du souci pour vos enfants et ceci et cela? C'est vrai que ça nous donne du souci. Mais écoutez, confiez-vous dans le Seigneur, confiez-les dans le Seigneur et vous allez voir comment il va faire. En tous les cas, ne vous laissez pas troubler. Que votre paix reste au fond de vous-même. Et gardez le repos de la foi. Il est là, il va vous aider. Et c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Chaque jour suffit à sa peine. La conclusion, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les silences de Jésus. Hey. Dans Matthieu chapitre 15, verset 23, c'est l'histoire de la Cananéenne qui vient, qui fait un tapage. C'est une païenne. Sa fille est possédée d'un démon. Et elle vient voir Jésus et voir aussi les disciples qui sont avec Jésus. Et elle crie derrière Jésus, « Délivre-moi !» Et elle pousse toutes sortes de cris. Et il nous est dit, Jésus ne lui répondit à rien. Alors ça, c'est quand même curieux, parce qu'une femme qui souffre, sa fille est dans un grand danger, et que Jésus ne répond rien, alors qu'il a l'habitude de toujours donner des paroles de consolation, de guérison et de délivrance. Mais vous savez ce silence de Jésus, regardez bien. Le silence de Jésus, il faut l'interpréter de cette manière, c'est que ce silence va faire, parce que vous connaissez l'histoire, va faire éclater, littéralement éclater la foi de cette femme pour atteindre des sommets que Jésus va louer d'une manière extraordinaire. Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Le silence de Jésus a fait décoller la foi de cette femme et elle a reçu la guérison qu'elle était venue demander. Parce que je peux dire que les silences de Dieu peuvent exciter notre foi. Vous attendez des réponses? Eh bien, quelquefois, quand Dieu ne répond pas, plutôt voyez les choses du bon côté et de la bonne manière en disant, Seigneur, si tu ne me réponds pas, mais la conviction, elle est toujours dans mon cœur, j'ai pas besoin d'une conviction supplémentaire, tu me l'as déjà dit, je crois à ta parole qui est marquée par une onction de ton Saint-Esprit, alors à ce moment-là, tu vas faire éclater ma foi. Et elle éclate la foi à ce moment-là. Elle va encore beaucoup plus loin que si Dieu nous avait dit quelque chose de plus. Toujours Jésus, le silence devant les prêtres qui le jugent. Dans Marc, chapitre 14, verset 61. Alors Jésus est au tribunal. Et on est en train de l'accuser. On a produit des faux témoins. Il est criblé de tous les côtés. Et à ce moment-là, ceux qui sont assis sur les sièges en tant que juges, ils vont lui dire à Jésus, « Mais qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Défends-toi, dis quelque chose. Au moins, dis quelque chose. » La réponse, Jésus garda le silence et ne répondit rien. C'était le moment ou jamais de dire quelque chose. Eh bien, il n'a rien répondu. Et quelquefois, devant certaines situations, il n'y a rien à répondre. Parce qu'on ne répond pas aux méchants. On ne répond pas à l'inique. On ne répond pas à l'injuste. On ne répond pas pour nourrir encore sa méchanceté ou ses mensonges. Puisque ces hommes à ce tribunal étaient de mauvaise foi, qu'est-ce que vous voulez dire à des gens qui sont de mauvaise foi? Jésus n'a rien répondu. Et c'est un avertissement qui retentit dans l'Évangile. Ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Quelquefois devant certaines accusations, diffamations, des méchancetés, faut savoir se la boucler. Parce que, autrement, vous allez les alimenter, vous allez leur donner les moyens de vous faire encore plus de mal, plus de mal, plus de mal, et vous allez les faire pécher. Et on n'a pas à faire pécher les gens. Dans ce cas-là, il ne faut mieux rien dire. Tout simplement. Mutisme de Jésus devant Pilate. Aucune réponse pour celui qui refuse d'entendre la vérité. Vous connaissez l'histoire de Pilate? Il était assis entre deux chaises, ce qui est très inconfortable. Mais, toujours est-il, qu'on ne répond pas à celui qui ne veut pas savoir la vérité. Il pose la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Le juge, le magistrat, l'officier supérieur de l'Empire pose la question à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Jésus va lui répondre là quand même quelque chose, mais il ne lui dira pas autre chose. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Point, terminé, c'est fini. Autre silence, celui que Jésus oppose à Hérode. Hérode le mauvais, parce qu'il avait l'apparence d'être très gentil, Hérode. Ouais. Jésus l'appellera le renard. C'est écrit, hein? Non, vous l'avez lu? Ouais. Il y a des gens qui sont très gentils comme ça en apparence. Ils sont très gentils, mais ils sont faux. Et on ne peut pas faire quelquefois plus faux. Vaut mieux avoir affaire à des gens qui vous disent carrément les choses, au moins vous savez ce qu'ils pensent. Mais il y a des gens qui viennent vous voir, etc., etc. Moi j'en ai connu, hein. C'est terrible. Hein. Ils viennent vous voir en disant, oui, tu sais, je vais t'aider, je vais faire ceci et cela, etc. Mais alors, attendez, hein. Les paroles sont des épées. Ils ont des épées dans leur cœur. Et la bouche, c'est du miel. Et ça se transforme en fiel, pour faire un jeu de mots. Lorsque Pilate entendit parler de la Galilée, il l'envoya à Hérode. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait qu'il verrait faire quelques miracles à Jésus. Il lui adressa beaucoup de questions. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit à rien. Parce que si c'est simplement de la curiosité, c'est pas la peine. Si c'est de la vanité, ce n'est pas la peine. Si c'est pour nourrir de la superficialité ou de l'orgueil, ce n'est pas la peine. Si c'est pour encourager Hérode à la criminalité, il avait déjà coupé la tête à Jean-Baptiste, hein. Eh ben, c'est pas la peine non plus. On n'a pas besoin, tout cela n'a pas besoin d'être entretenu, et le chrétien doit savoir se taire quand il faut se taire. Pas la peine de parler. Et Jésus n'a pas répondu. Le silence a été la seule réponse. Deux dernières images. Autre silence original de Jésus. C'est l'épisode de la femme adultère. Une femme qui a péché, naturellement. Femme adultère. Jean, chapitre 8, verset 3, 6, 8. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ils l'ont placée au milieu du peuple et ils dirent à Jésus, maître, cette femme a été surprise, etc., en flagrant. Bon. Et que faut-il faire? Parce que Moïse a dit qu'il fallait la lapider, qu'il fallait la mettre à mort. Et là, c'est là où nous en arrivons, finalement, au verset 6, où il est dit ceci. Il disait cela pour l'éprouver, afin que pouvoir l'accuser. Donc, il y a une question qui était posée à Jésus. Mais écoutez bien. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme qu'il continuait à l'accuser, etc., etc., le verset 8 nous dit « Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. » Jésus n'a pas répondu. Il n'a pas répondu avec des mots. Des mots, le verbe, avec des mots exprimés par la bouche. Il s'est baissé, il écrivait sur le sol avec son doigt. Le silence parle à la conscience parfois mieux que les mots que nous disons avec notre bouche. Alors, on n'a jamais su ce que Jésus était en train d'écrire sur le sol. Certains commentateurs étaient peut-être très imaginatifs, ont dit ceci et cela. Et vous avez vu, par deux fois, Jésus écrit avec son doigt, sur le sable, tout simplement. Et moi, je dis que quelquefois, le silence parle mieux à la conscience que quelquefois tous les mots, parce que ce silence-là force à la réflexion. Et quelquefois, Dieu se tait, il ne dit rien, pour nous dire « Réfléchis un petit peu. » Réfléchis. Je ne vais pas te donner la réponse tout de suite. Tu vas la comprendre, la réponse. Réfléchis. Et je termine. Enfin, le plus pathétique, le plus douloureux des silences de Dieu, c'est celui de Golgotha. Dans Matthieu, je prends le texte parce que c'est quelque chose que ce texte. Chapitre 27, versets 47 et 50, 45 si vous voulez, depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra pour le sauver. Le silence de Dieu à Golgotha, à la croix. Jésus, au paroxysme de l'agonie, dans sa souffrance. Eh bien, va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Question, interrogation. Imaginez cette perplexité dans l'âme et dans le cœur de Jésus. Et pas une parole du ciel. C'est le silence de la mort et de l'abandon. Des siècles auparavant, un homme était monté sur le mont Morija. Il s'appelle Abraham. Il sacrifie son fils. Et là, au moment où il va porter le couteau dans le cœur de son fils, une voix lui dit du ciel, « Arrête, arrête. Maintenant je sais que tu m'aimes, je sais que ton cœur a confiance en moi. » Mais là, ce jour-là, à Golgotha, il n'y a pas eu de voix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le ciel est d'airain, le ciel est fermé, pas une parole. Et c'est le silence de la mort et de l'abandon. Et vous savez comment Dieu a répondu? Écoutez bien la suite. Trois jours après. Trois jours plus tard, la réponse viendra, inimaginable, inouïe, miraculeuse, incroyable, non pas avec des mots, mais avec un fait sans précédent dans l'histoire des hommes sur cette terre. La réponse viendra à travers la résurrection. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté, ta fidélité. Oui, Seigneur. Tu veux nous apprendre, Père éternel, à marcher avec toi. Tu veux nous apprendre, Père éternel, à te faire confiance, envers et contre tout, quand tu parles et quand tu ne parles pas. Tu veux nous amener, Seigneur, à comprendre qu'en effet, Seigneur, si nous sommes sur la terre, notre Sauveur, notre Rédempteur est au ciel. Et en effet, Seigneur, tu as permis qu'il y ait communication entre le ciel et la terre. D'abord, à travers ces hommes de Dieu, les prophètes, à travers ces hommes de foi qui ont parlé, Seigneur, et qui ont parlé en ton nom. Mais nous croyons, Seigneur, que celui qui a été donné par excellence, celui qui a tant parlé aux hommes, celui qui a dit les paroles de Dieu aux hommes, celui qui a donné les enseignements du ciel aux hommes sur la terre, eh bien, Seigneur, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, de nous avoir donné Jésus. Mais par-delà tout cela, Seigneur, Seigneur, toute cette histoire de la Bible, il y a parfois où les hommes ont crié à toi, t'ont supplié, se sont tenus devant ta face, ont élevé des autels. Mais Seigneur, parfois il n'y a pas eu de réponse. Mais Seigneur, n'as-tu jamais répondu? Tu as toujours répondu d'une manière ou d'une autre. Alors apprends-nous le discernement. Apprends-nous à avoir de la perspicacité spirituelle. Parce que, Seigneur, tu peux nous répondre par un non et nous savons ce que ça veut dire. Tu peux nous répondre par un oui et nous savons aussi ce que ça veut dire. Mais quand tu ne réponds pas, tu ne nous as pas dit que c'était oui ou c'était non. Tu nous as seulement demandé d'attendre. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Fortifie la foi de mes frères et mes sœurs. Fortifie notre foi à tous. Et pour te dire ce matin, eh bien Seigneur, nous avons confiance en toi. Amen. Amen, Jésus.